Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est absolument incroyable, le lundi 28 juin, il est 8h30 et elle arrive tout de suite, rentre, fais comme chez toi Monique, vas-y, rentre dans le studio, nous sommes en direct. Il va se marrer ce matin et je lui ai demandé de venir au cas où il fallait faire 2-3 trucs, au son c'est Corto, salut Corto.
Bien le bonjour, bien bonjour Ben, bonjour à tous.
Une matinale chargée ce matin, j'adore, avec nous en studio Wesno ou Nono Lulu ou Arnaud est avec t'es un peu schizo, salut Arnaud.
C'est ça.
On s'est rencontrés vendredi, on était en plateau BD à Quézac et toi t'es en tournée chez nous en ce moment, entre autres. Et t'as vu la radio, tu t'es dit, dis donc, si j'allais faire ma promo, et quelle bonne idée,
ouais. Voilà.
C'est trop sympa d'être là, bonne
Merci
idée.
Beaucoup.
T'as pris ta gratte, ça va faire bosser notre Corto National. Elle vient de rentrer en studio, j'ai eu peur qu'elle ne vienne pas, mais elle est là, Monique, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir à chaque fois de t'accueillir. Toi, quand tu viens nous voir, c'est à chaque fois génial. Je suis ravi de t'accueillir. C'est pour un livre incroyable qui s'appelle Le chemin des écoliers, les écoles primaires de Lozère depuis 1850. Alors, j'ai pas pu tout lire. J'ai eu le livre entre les pattes mardi ou mercredi dernier, mais c'est riche, c'est généreux, c'est documenté. Bref, c'est tout ce qu'on aime sur cette antenne. On en parle dans un instant. Voilà. Est-ce que mon Corto, là, qui est en train de faire 2-3 trucs, Corto? Enfin, on est juste en direct, hein. c'est absolument génial. Voilà ce qui se passe quand on est en direct. Corto, comme t'es disponible, on y va pour l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Les amis, je sais pas vous, mais les orages, c'est quand même super énervant. On va pas se leurrer, mais on a tous besoin d'Internet. Et nous, ici, à la radio, ouche, sans ça, on est un peu dans la mouise. Et voilà que samedi, sans crier gare, alors que je prends mes quartiers d'été à Quézac, c'était un secret pour personne, pour ceux qui me connaissent, voilà que tout d'un coup, dans la nuit de samedi à dimanche, un gros orage vient pointer le bout de son nez du côté de là-bas et pète tout sur son passage. Sans déconner, j'en ai rarement entendu des comme ça, impressionnants et bruyants. Bref, joie de la nature, mais il a vraiment tout pété. Alors, grand bien vous fasse, je ne ferai pas cet édito que je fais à chaque matinale où je m'énerve pour rien. Grand bien m'en fasse puisque je n'ai pas pu voir les résultats des élections ou autres actualités déprimantes. Grand mal m'en fasse puisque j'ai dû parler et rencontrer des gens qui ont du talent et le sens de l'humour. Bref, j'ai dû passer un dimanche de rencontre sans penser à mon téléphone et en pensant un peu au boulot. J'écris la plupart des choses de dimanche. Je me dis, tiens, et si j'écrivais pas d'édito, ça va changer votre vie ? Ça va pas changer votre vie, comme de ne pas avoir internet n'a pas changé la nôtre. Dingue. On parle d'école dans un instant, on écoute d'abord cette circonstance Jean Bertola qui interprète Brassens, la maîtresse d'école.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lévenés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac. Lorsque le proviseur à la fin de l'année nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex-aequo, d'excellence ex-aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie de l'école. En dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort anthème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-aequo, de la classe ex-aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe.
Et cette circonstance, il s'appelle Berthola, il chante Brassens, la maîtresse d'école. D'ailleurs, cette chanson n'a jamais été chantée par Georges Brassens. Nous sommes en plateau avec Monique. Arnaud est toujours là. T'interviens quand tu veux, Arnaud. Hein. Voilà. Monique, le chemin des écoliers, les écoles primaires de Lozère depuis 1850. C'est un livre qui vient de paraître. C'est un travail de dingue. Un livre de 200 pages en A4. Imaginez, un superbe objet. Je l'ai là entre les mains. Comment a commencé l'aventure de ce livre, Monique?
Alors, l'histoire de ce... Bonjour à tous, d'abord.
Bonjour, Monique.
Je suis arrivée juste à l'heure, pas en retard.
Pile poil.
Donc, ce livre a commencé au sein du foyer rural de Tarnon-Mimente, auparavant Saint-Laurent-de-Trèves. Nous avions déjà fait quelques enquêtes auprès des gens, et les gens sont venus se confier à nous pour nous parler de leur vie, de leurs habitudes, de ce qu'ils faisaient à l'école, de ce qu'ils faisaient au champ, etc. Donc on avait plusieurs sujets en route, on va dire. Et j'ai choisi le thème sur l'école, alors que Sophie Lemonnier, elle, a pris le thème sur les champignons, puisqu'elle est ethnobotaniste. Moi, j'ai pris le thème tout à fait par hasard, sur l'école. Enfin, tout à fait par hasard, pas vraiment. Pas vraiment par hasard, parce que j'aimais l'école, parce que je m'y sentais bien, parce que j'ai pas fait peut-être tout ce que je devais faire, mais je m'y sentais bien. Et voilà. Et au départ, j'ai pensé écrire seulement sur les écoles de la commune de Saint-Laurent-de-Trèves, c'est-à-dire l'école du Mazel, de Saint-Laurent et du Bosc. Et quand j'ai commencé à enquêter, il m'est apparu que si je ne faisais que ces trois lieux, ça arrivait là comme un cheveu sur la soupe et on comprenait pas tout ce qui s'était passé auparavant. Donc du coup, j'ai fait d'autres enquêtes ailleurs. Il faut dire, on avait fait un stage avec des ethnologues qui nous avaient conseillé pour écrire ce genre d'écriture, pour faire ce genre d'écriture. Et donc j'avais établi mon plan de travail, mon questionnaire à faire auprès des gens. Et une réponse amène une question amène une réponse, et ainsi de suite, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Donc je suis allée au-delà des trois écoles qu'il y avait sur la commune de Saint-Laurent-de-Trèves, et j'ai commencé à enquêter avec des élèves ou des instituteurs et institutrices au-delà de la commune. Voilà.
Alors justement, comment t'as bossé? Parce que c'est incroyablement riche en témoignages, en récits, en archives. Comment on bosse et comment on réunit tout ça et comment on organise un peu tout ça? Parce que
alors là, c'est le moment difficile et le moment où on panique un peu et on se dit je vais jamais y arriver, parce que c'est bien beau d'avoir tout ce matériau, mais après il faut l'organiser. Donc si tu veux bien, on va repartir au moment où j'ai commencé aussi à faire des recherches aux archives départementales. Parce qu'il y a des témoins, des gens qui sont là, qui sont sur le terrain. Malheureusement, il y en a déjà, depuis que j'ai commencé mes enquêtes il y a 5 ans, il y en a déjà qui ne sont plus là. et c'est bien que j'ai pu recueillir leurs témoignages. Et je suis allée aux archives départementales parce que j'ai voulu remonter jusque avant la Troisième République pour qu'on comprenne ce qu'est notre école maintenant. Mmh. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu tous ces matériaux, et notamment les enquêtes, parce que je faisais des enquêtes audio. Faire des enquêtes audio, c'est bien, ça reste dans une machine, donc il faut les extraire, il faut les retranscrire, et ensuite il faut les trier. Parce que, bon, ce qu'il y avait de bien et un inconvénient en même temps, c'est que les gens ici me connaissent ma famille qui est établie là depuis 7 générations. Évidemment, les anciens, ils les connaissaient pas, hein, ils sont plus là. Mais après, ils me parlaient d'autres choses. Et j'avais du mal à les canaliser dans l'école, mais en même temps, c'était tellement bien d'entendre leurs témoignages au-delà de l'école.
Donc ça après, pourra peut-être donner lieu à d'autres livres.
oui, ben j'en ai en préparation, mais on en parlera après, on verra.
Bien sûr. Donc l'école et ses témoignages.
Voilà, l'école et ses témoignages. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. J'ai un gros pavé de cahiers où j'ai transcrit tous les témoignages audio. Et ensuite, il a fallu que j'établisse un plan que j'allais mettre dans mon livre. Et en fonction de ce plan, ben je cochais sur mon cahier où j'avais transcrit tous mes messages audio. Mais bon, si toutefois je fais des petites soirées ou des petits moments de conversation autour de ce livre, j'amènerai mon cahier pour qu'on comprenne ce qu'on fait en fait.
En tout cas, on comprend. Bon, il y a des parallèles entre le national et la Lozère, bien sûr, d'après ce que j'ai compris. L'enseignement à la fin du 19e siècle, hein, c'est un enjeu politique, d'où le nombre croissant d'écoles. Mais ce qui va bien sûr aussi à l'encontre de la religion, qui est ultra puissante ici en Lozère aussi, qui ne fait pas exception d'ailleurs.
Qui ne fait pas exception. Alors là, je me suis, on va pas dire heurtée, c'est pas le mot, mais j'ai retrouvé ces différences qu'il y a entre le sud de la Lozère et le nord de la Lozère, qu'il y avait, parce que maintenant elles sont quand même éteintes, ces différences. La religion protestante prévalait beaucoup en Cévennes, donc ce qui fait que les enfants des familles protestantes savaient très souvent, on va pas dire lire, mais avoir une approche assez importante de la lecture quand ils arrivaient à l'école, et de l'écriture. Dans le nord de la Lozère, c'était un peu différent. Il y avait la religion catholique qui était très présente, et c'était souvent le curé, l'évêque qui faisait l'instruction, on va dire, et pas forcément laïque, bien sûr, religieuse auprès des familles. Et là, il y a eu des clivages importants, des controverses violentes, on va dire. Hein, même il y a des instituteurs, je crois que c'est à Runes, l'instituteur était laïque et protestant. Donc double difficulté, et quelquefois il était menacé de mort. Certains jours il était menacé de mort, on l'attendait au coin de la rue, on l'ennuyait la nuit, on cassait les vitres de son appartement à coups de pierre. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez violent. Donc ça, c'est au moment de la séparation des églises et de l'État où tout ça s'est remonté et c'est devenu encore plus violent. Il faut dire qu'après, la guerre de 14 a calmé tout le monde et la pression est retombée. Mais c'était quelque chose d'assez impressionnant.
Et là, on s'aperçoit, et d'ailleurs on le voit, hein, puisque tu t'évoquais Saint-Laurent-de-Trèves, il n'y a plus d'école aujourd'hui, mais au long de l'évolution de ton livre, on s'aperçoit, c'est bien dommage, que les écoles disparaissent, privées ou publiques d'ailleurs.
Oui.
Les écoles privées, et dans les années 50, c'était incroyable, il y en avait vraiment beaucoup.
Oui, il y en avait beaucoup, mais je ne sais pas si tu as vu les cartes que j'ai mises à l'intérieur du livre. Les écoles privées ont disparu parce que je pense que dans l'esprit des gens, l'école laïque, c'était quelque chose qui était important, qui était bien implanté sur le territoire, qui était structuré. Et voilà, je pense que les familles avaient ça déjà, l'esprit laïque, plus laïque.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ce que t'as découvert tout au long de ton travail?
Vaste question. Le plus surprise. Alors, ce qui m'a le plus surprise, ce sont les souvenirs des élèves qui ont attaché une grande importance aux punitions qu'ils avaient reçues. Mmh. Et la plupart du temps, ils se rappellent qu'ils ont été punis, mais ils se rappellent pas pourquoi. C'est dire que l'importance de la punition est quelquefois la violence. Hein, parce que je pense que si maintenant les instituteurs ou les institutrices, les professeurs d'école faisaient ce qui se passait à l'époque, qu'on croyait être une bonne éducation, hein, il faut pas leur jeter la pierre non plus, mais on pensait qu'il fallait élever les enfants à la dure, quoi, hein, que c'est comme ça qu'ils avanceraient. Alors que bon, la plupart du temps, ils étaient brimés. Hein. Il y a même Gilbert qui me disait, Oh là là, si mes parents ils m'avaient poussé à l'école, je crois que je serais tombée.
une jolie formule. Alors justement, au-delà des punitions, toi tu l'as dit tout à l'heure au début de cette interview que tu gardes un tendre souvenir de l'école, si j'ai bien compris. Est-ce que les personnes que tu as rencontrées, au-delà des punitions, gardent elles aussi un tendre souvenir quand même?
Oui, la plupart du temps, oui. Mmh. Oui, oui.
Et alors, tu voulais aussi faire un lien ou un pont avec les générations actuelles, d'où les témoignages de Numa, de Louis ou encore de Baptiste qui sont des petits-fils.
Oui.
C'est vraiment quelque chose que tu voulais entre le passé et l'avenir finalement.
Voilà, mais pas que mes petits-fils, il y a aussi d'autres jeunes élèves, d'autres jeunes enfants. Et cette passerelle, j'ai voulu la faire aussi avec les élèves de l'école de Vébron. En accord avec les maîtresses de l'école de Vébron, Nathalie Roux, la directrice de l'école, je suis allée passer deux demi-journées auprès des élèves de Vébron qui avaient choisi comme thème le matériel de l'école, les déplacements, comment on allait à l'école, et ensuite ce qu'ils y faisaient. Et c'était très intéressant, hein, parce que les élèves maintenant, on les voit, comment dire, dans un cadre... tranquille, on va dire. Mais quand même, les enfants de l'époque, il fallait qu'ils marchent à pied. Et ça étonnait beaucoup les enfants de maintenant. Mais tu devais partir très tôt pour aller à l'école. Mais à quelle heure tu te levais? Ben, on a établi quand même que quand je partais à pied à l'école de Grattegal au Mazel, d'accord? On allait aussi vite qu'avec le bus pour aller de sa maison au lieu d'école.
Donc c'est ça, ce que j'ai fait une fois. J'étais au collège de Saint-Élimi et j'habitais Champerbout. Ouais. Et j'ai défié le chauffeur de son J5 que j'arriverai avant lui à Saint-Élimi.
Oui, mais enfin.
Mais bon, j'ai un peu galopé.
Tu descendais quand même. Hein.
J'ai descendu, c'est
parce
vrai.
Parce que si tu étais parti de Saint-Élimi à Champerbout,
là. Ah non, là, il aurait gagné.
Ça serait pas marché.
Ouais, donc cette disparité entre justement les élèves d'aujourd'hui et ceux d'hier. Nathalie, d'ailleurs, qu'on salue puisqu'elle s'en va de l'école de Vébron. Et on lui souhaite bonne route. Tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais dire que tous ces jeunes à qui j'ai demandé s'ils étaient d'accord pour écrire sur mon livre à propos de leur école primaire, tous, hein, spontanément, ont répondu oui. Après, j'avais d'autres petits témoignages, mais bon, pour faire un livre, des fois, il faut se restreindre, il faut supprimer certaines choses, ne pas en faire d'autres, donc voilà.
Ça, c'est sûr. Pour l'édition, c'est édité au foyer rural Tarnon-Mimente, hein, qui est le foyer rural de Saint-Laurent, de Trèves, entre autres. Comment ça s'est passé?
Alors là, je vais remercier, mais un grand merci à Marc Lemonnier, parce que c'est lui qui a fait la mise en page. C'est pas facile, il est pas graphiste, il y a passé des heures. On est revenu sur des choses, on est reparti sur d'autres, enfin bon, voilà. Et c'est un gros travail qu'il a fait, et c'est ce qui a permis d'avoir ce livre à 15 € quand même. Donc,
Pour l'objet que c'est tout à fait abordable, c'est clair.
Voilà, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce prix-là, parce qu'il permet à tout le monde de pouvoir acheter ce livre. Et pouvoir le consulter, surtout, et le lire. Et c'est l'information qui est intéressante.
C'est
donc.
Clair. Et pour la diffusion, on peut le trouver où?
Alors, on peut le trouver en m'appelant, il y a mon adresse, ou en m'envoyant un mail. Il y a mon adresse mail à la fin du document, je crois que la 200e page, ou quelque chose comme ça. On va le trouver en librairie, à la Maison de la Presse à Florac. Il va être aussi à la Maison de la Presse à Saint-Jean-du-Gard. Il est à la librairie Chaptal à Mende. Il va être à Hyper-U, j'ai rendez-vous avec eux demain. Voilà, et pour l'instant, au foyer rural de Saint-Laurent-de-Trèves, enfin Tarnon-Mimente.
Et moi, je mets ton contact sur notre site dans un instant, à la fin de cette matinale. Comme ça, on pourra te contacter. Alors, tu parlais de projets futurs à venir.
Pas abouti, hein, je précise quand même. Alors, j'ai deux livres en préparation, en fait. J'ai un livre à partir des 500 lettres que mon grand-père avait envoyé à ma grand-mère pendant la guerre de 14. Donc, j'ai transcrit... minutieusement ces lettres, toutes, j'en ai déjà 180 pages de lettres. Et là aussi, j'ai pensé que c'était un peu redondant, parce que forcément, les soldats racontaient toujours un peu la même chose. Donc, je suis allée chercher dans le 342e régiment d'infanterie, j'ai trouvé un site, on va dire, quasi officiel, et chronologiquement, je note ce qui se passait officiellement dans ce régiment, ce qui se passait au front, comment ils faisaient, etc., les faits d'armes, les faits de guerre. Et chronologiquement, je les insère dans les lettres du grand-père. Et en même temps, je m'appuie sur des livres, des carnets de guerre de poilus lozériens. Il y avait le maire de Mende qui a écrit un livre qui s'appelle Émile Joly. Il y avait le chef de division de la préfecture, Albert Jurquet. et Marius Balmel, bien sûr, qui lui était au casernement à Mende. Il n'était pas parti au front en raison de sa santé. Et je m'appuie sur ces trois livres pour encore étayer l'ouvrage.
Ouais, tu
en voilà un. Et le deuxième, ben, on en avait déjà parlé. J'étais venue ici à la radio. C'est à propos des enfants qui ont été déposés dans le Tour à Mende dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Il y a deux ans, tu faisais une conférence là-dessus.
Voilà. Oui, il va y en avoir une autre à Rousse dans peu de temps.
C'est avec plaisir qu'on t'accueillera pour en parler. C'est à chaque fois passionnant.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Avec grand plaisir.
Jeudi, je suis à la Maison de la Presse à Florac pour faire les dédicaces. Il y aura on va pas dire des conférences, mais des conversations à Bédouès. Je serai à Bar des Cévennes à la Foire de la Madeleine, à la Journée des Écrivains au Pompidou les 17 et 18 juillet. Voilà, entre autres.
Et jeudi, c'est à quelle heure à la Maison de la Presse?
À partir de 9h.
À partir
le matin.
9h, Monique Fraissinet, Le chemin des écoliers, les écoles primaires de Lozère depuis 1850. C'est édité par le foyer rural La Tardon Mimente. On se retrouve dans un instant avec Wesno, Nono Lulu, enfin bref, Arnaud. Eh ben, on va t'écouter, là. On écoute un morceau qui s'appelle Serge, là, qui est dans le projet Wesno, c'est ça, si je ne m'abuse. Serge, c'est parti.
Sacré Serge. Serge Gainsbourg, un roi de l'amour, tes chansons sont un hymne à l'âme, oui aux femmes. Sacré, sacré Serge, sacré, sacré Serge, vogue toujours tes 45 tours de passe-passe, oui, tout est vert. Sacré, sacré Serge, sacré, sacré Serge, sacré, sacré Serge. Je vois de la fumée venant du reggae. Ces volutes d'or sont déjà fumées dans le cendrier. Sacré, sacré Serge, sacré Serge. Dans le velours, jour après jour, tu composes, oh, tu causes de toi, sacré, sacré Serge. Sacré, sacré Serge. Serge Gainsbourg, refoule les débats, ton haleine. Sacré Serge, sacré Serge, tu es vraiment un sacré séducteur. Sacré, sacré Serge, oui, vraiment un drôle de dragueur. Sacré, sacré Serge, sacré Serge, sacré, sacré Serge. Come on, chante. Chante. Sacré, sacré Serge.
Ça, c'est le projet Wesno, chansons jazz en français. Il y a aussi Nono Lulu, qui est un spectacle de chansons pour les enfants et les familles. Arnaud est avec nous. Alors ici,
Bonjour.
On va tout de suite parler du batteur là, qui t'accompagne sur ce projet.
Alors ça, c'était un projet à l'époque où j'avais rencontré un Cubain qui était un peu multi-instrumentiste. Et ça m'a donné l'occasion de mettre en groupe la musique. Et c'est vrai que j'ai fait peu de partenariats avec des musiciens et lui m'a permis, il était professionnel. Après, ça a pas fonctionné humainement, mais ça, c'est le jeu. Et ça m'a permis de, voilà, on a enregistré ça dans le salon, guitare, basse, et après je refais toutes les parties. Mais ça a beaucoup changé parce que c'est pas la voix que j'ai.
On t'écoutera tout à l'heure en live, ça réveillera notre cher Corto.
C'est rigolo. Ça va, Corto?
Ça a pas été trop dur cette année pour au niveau du jeu, de la culture et autres?
Non, moi j'en ai profité pour prendre du temps. voilà, à arrêter la machine un petit peu. Donc on nous a dit arrêtons-nous, et ben écoute, super. Donc se poser, écrire, prendre du temps, être amande. Okay. Moi j'ai confiné amande, donc j'étais bien, hein, j'allais me promener sur le cos, j'écrivais des chansons, des textes, j'écrivais ben, sur moi aussi, parce que je trouve de savoir un petit peu pourquoi on est là, quand on fait le métier de musicien. Et j'ai la chance de travailler dans les écoles, ça a été vraiment ma... J'ai basculé de la cuisine, qui est mon premier métier, dans la musique, qui est ma passion première. J'étais cuisinier dans une école à Clermont-Ferrand, dans le privé. Et le jour où j'ai démissionné, pof, la directrice m'a dit, si tu veux, il y a une place d'intervenant musique. Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai été intervenant musique 6 ans dans cette école, c'était à Sainte-Thérèse-les-Cordeliers. Et je me suis fait la main tout seul en tant qu'intervenant musique. Et j'ai commencé à créer des spectacles. Donc c'est les enfants qui m'ont... Et j'étais cuisinier pour les gosses. J'ai commencé par les gastro, les machins. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai terminé en collectivité. Et j'ai cuisiné pour les enfants. Donc les enfants m'ont toujours passionné. Parce que je m'amuse beaucoup. Voilà. Et les écoles, ben, récemment, j'ai beaucoup travaillé avec Marie Rivière à Chanac. Où j'ai monté des projets. On a filmé, enregistré une chanson. Il y a Jean-François Moulin qui écrit. Il écrit des paroles. Il les met souvent en musique sur des musiques du Goldman. Et... Bon, voilà, et du coup, on a fait un projet vidéo avec deux projets avec les enfants. Donc, je les ai enregistrés, j'ai fait la musique, on a enregistré les enfants. Voilà, et donc, toujours ce lien avec... Donc, ça, c'est Nono Lulu. J'ai choisi deux noms de scène comme ça, parce qu'un ami s'appelait Lulu, c'était Jean-Luc, qui m'a mis le pied à l'étrier avec les centres de loisirs et les enfants. Et Nono est mon petit surnom d'enfance. Donc, j'ai fait ça, Nono Lulu. Donc, je lui tiens, t'as le petit nom pour les enfants. Et Westno, ben j'aime beaucoup Wes Montgomery, qui était un guitariste de jazz. Oui. Donc j'ai mélangé Nono et Wes Montgomery. Voilà.
Alors justement, par rapport au projet Nono Lulu, hein, c'est rigolo parce que t'as un univers assez BD et t'as travaillé notamment avec Thierry Laudrin, qui a fait ton graphisme.
C'est ça, ouais, que j'ai rencontré en tapant dessinateur Lozère. Et il était venu en Lozère présenter des BD. Donc je l'ai appelé, on s'est bien entendu, il est vers Nantes, on s'est jamais vu encore, faut que je passe le voir. Et j'ai envoyé mes chansons, j'ai dit voilà, tu peux me faire un univers. Il a accroché et ça a fonctionné.
Ouais, le graphisme est super chouette.
C'est drôle.
Si j'ai bien compris, c'est pas un, mais 5 spectacles que tu peux jouer entre Westno et Nono Lulu, si j'ai bien compris, c'est ça?
Avec Nono Lulu, donc le premier c'était La Rota del Destino, un personnage forain que j'ai créé. Il y a eu un conte musical avec Nathalie Tibur, qui est ancienne institutrice conteuse sur Clermont-Ferrand, ça c'est un deuxième. J'ai créé un conte qui s'appelle Amiaté, un conte musical où je suis tout seul, que j'ai fait une résidence à Mende. Et le dernier, j'avais envie de faire le concert de Nono Lulu, tout simplement, un peu comme Westno, avec juste ma guitare, ma basse, mon looper, une harpe. Et je chante les chansons que j'ai composées et j'intercale un conte ou deux. Donc ça reste un concert interactif, simple, j'avais envie de simplicité. Et les gosses viennent sur scène avec moi, jouer, je fais chanter les parents.
Voilà. Si tu travailles de la même manière un spectacle que tu fais pour les enfants et un spectacle tout public ou plus pour adultes, c'est la même façon de travailler ou alors est-ce que...
Musicalement, oui. Et intérieurement, c'est vrai que... Je m'amuse plus avec les enfants parce qu'ils m'autorisent. Enfin, je m'autorise à plus sortir mon enfant, on va dire, hein, mon clown, ce que tu veux, cette fraîcheur, la spontanéité, je l'ai plus facilement avec les gosses, parce que je peux plus aller jouer et y répondre de suite. Les adultes maintenant, j'y arrive plus facilement parce que je prends le temps d'aller chercher chez eux ce truc-là. Voilà. Mais je le vois différemment, mais musicalement c'est la même chose. Les textes sont différents. Hein. Voilà, il s'adresse plus Westno, peut-être aux adultes entre guillemets, mais j'ai envie d'aller les titiller au même endroit, aller s'amuser. Ce qui me plaît, c'est d'aller jouer.
Et ce week-end, t'étais aussi dans la région puisque t'as suivi un stage dans le cadre du festival Contes et Rencontres, puisque tu me l'as dit aussi, continuer à se former, c'est toujours important et on a à apprendre de tout le monde. Alors comment ça s'est passé? C'était avec
Gigi Bigot. Qui est une copine, qui est une amie de la conteuse que je connais, Nathalie, et c'était assez magique. Elle nous a proposé le thème, c'était de fabriquer les images, arriver à ce que l'auditeur, pof, ait un cinéma qui se crée dans sa tête dès que vous racontez une histoire. Et c'était pas simple, pas si simple que ça, quoi. Et moi, en tant que comme j'écris des chansons, je me dis, est-ce que quand tu chantes, est-ce que pof, voilà, est-ce que les gens, ils ont leur cinéma qui se met en route quand tu racontes ta chanson, etc. Ça m'intéressait dans cette approche-là. Le conte, j'y vais doucement. Voilà, je reste très modeste. Je me dis pas conteur, mais voilà, le monde du conte me passionne parce que c'est des gens qui ont beaucoup de choses à nous faire passer. Donc ouais. Voilà, aller découvrir des outils. En même temps, la personne est super. Et Gigi est extraordinaire.
C'est sûr. Et il y a une vraie tradition du conte en Cévennes et en Lozère. On en parle énormément sur cette antenne. En 2010, tu as créé la compagnie Les Arts en Lumière. Donc, c'est dédié... la compagnie, elle s'est installée en Lozère en 2018, voilà, je crois. C'est quoi l'intérêt d'avoir une compagnie?
Je voyais que toutes les compagnies avaient un nom. Moi, j'avais ces deux entités, Nono Lulu, Wesno. J'avais pas pris Arnaud Solignac. Je me dis, ça fait un peu trop Cyril Lignac, Cuisto.
Ah ouais, j'ai même pas pensé.
J'ai pas utilisé mon nom. J'ai souvent réfléchi à ça. Les identités, ma chaîne artistique, ça me saoulait un peu. Et quand je disais Nono Lulu aux enfants, ça leur plaisait. J'ai dit, bon, garde-le. Voilà. Et après, je voyais toutes les compagnies. Comme c'est vrai que je suis parti un peu dans le spectacle, les compagnies avaient un nom, machin. Donc, j'ai créé l'association avec un nom, tout simplement.
Est-ce que c'est facile de vivre de son art, ici en Lozère, et en général?
Pour moi, ça va, parce que je travaille beaucoup seul. Donc, je suis assez autonome, libre dans ma démarche, et je me déplace très rapidement. Donc, pour moi, ça va. Mais après, il y a les contextes. Hein. C'est vrai que là, tout d'un coup, il y a beaucoup de dates cet été. Alors, est-ce que les gens ont vraiment envie de faire des choses? Il y a le bouche à oreille, il y a beaucoup de choses. Je suis pas un grand, il y a le côté, comme on dit, tourneur, voilà, chercher les dates, tout ça, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes aiment pas trop faire.
C'est clair, c'est un vrai métier.
Alors, je fais un peu tout. Donc, moi, c'est difficile, grâce au statut, je trouve qu'on a la chance de pouvoir vivre de cet art ici. Donc, pour moi, je trouve ça un cadeau extraordinaire d'avoir le statut d'intermittent.
C'est clair, l'exception culturelle française.
Voilà. Donc, et faire 43 dates, si on se donne les moyens, on y arrive.
Beaucoup disent justement qu'il va y avoir embouteillage par rapport aux spectacles qui ont été créés pendant cette année là, puisque la création était autorisée et pas les spectacles. Donc il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau. C'est quoi ton avis toi là-dessus?
Alors sur le carreau, j'ai pas compris. Tu peux me le refaire?
Donc qui vont rester, qui pourront pas jouer leur spectacle. Il va y avoir embouteillage en fait.
Ben je ressens qu'il y a tout le monde a envie vraiment de pratiquer. Voilà. Cette année de remise en question, c'est sûr que les grosses machines peut-être elles y arriveront, je sais pas trop. Je sais pas comment ça se passe trop. C'est vrai que moi je travaille dans des petites structures, là il y a beaucoup des campings, il y a du bar, ça peut être des petits festivals, des petites choses. Donc peut-être réinventer la rencontre de l'artiste avec le public. Peut-être c'est ça. Moi je crois beaucoup à des formes simples et petites. Je crois que c'est qu'on revienne au contact avec des petites choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois beaucoup, plutôt que des grandes productions, des grands concerts, c'est super. Hein. J'en doute pas, c'est génial. On se régale, 10, 20 000 personnes. Mais je crois beaucoup que la culture revienne et que les gens pratiquent, tout simplement, de revenir à des échanges, à des petites choses.
Plus intimes, ouais.
Plus intimes, moi je crois beaucoup à ça.
Alors la prochaine date en Lozère, si je ne m'abuse, c'est dans un moment, c'est en août, je crois, tu seras à Millau.
Dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron, c'est la semaine prochaine,
voilà, ouais.
Le 7 juillet, je crois. Et sait-on jamais si un programmateur est intéressé, comment il te contacte?
Ben, sur mon site, il y a westno.com et nonolulu.fr.
Nonolulu.fr. De toute façon, je mets tous les liens sur notre site dans un instant. Est-ce que tu serais motivé pour nous faire un petit live?
Ouais, si vous voulez, oui.
Puisque tu as ta guitare.
Allez.
On t'écoute.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va pour le son, tu me dis? Je vais chanter, je peux faire ça un peu de loin, comme ça, si tu veux.
Ouais, chante un peu, on va voir.
T'es pas... Ça va comme ça?
Ouais.
Vous me dites, hein? Ça va? Allez, je vais faire une petite chanson pour les gosses que j'avais écrit avec des CM2. On la joue au camping avec les gamins, celle-là.
Yeah.
Donc ça, c'est plus Nono Lulu. Hein. Ça va, Corto? Est-ce que le son te plaît? pouces levés. Des animaux d'Afrique s'en vont en pique-nique manger des sandwichs, n'est-ce pas? Déguster des pois chiches. Des animaux d'Afrique s'en vont en pique-nique manger des sandwichs, déguster des pois chiches. Il y a même l'éléphant, très très élégant, et la gazelle qui se fait belle. Monsieur le guépard qui est sur le départ, il n'a pas vu l'heure, wow, wow, il est en retard. Les animaux d'Afrique s'en vont en pique-nique manger des sandwichs, déguster des pois chiches. Ouais, petit extrait.
Bravo.
Oh, c'est merci.
Non, non, Lulu, Westno, je mets tous les liens dans un instant sur notre site Le Chemin des Écoliers, les écoles primaires de Lozère entre 1850 et aujourd'hui, de Monique Fraissinet. Je mets aussi le lien si jamais le bouquin vous intéresse. Et à partir de 9h, ce sera la Maison de la Presse ici.
Jeudi 1er juillet.
Ce jeudi à la Maison de la Presse. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi pour parler de la programmation du Parc National cet été. Merci pour Corto. Merci beaucoup,
merci,
Arnaud.
Belle.
Merci beaucoup, Monique.
Merci.
On va se quitter avec un petit live encore d'Arnaud, de Nono Lulu. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, à mercredi. Ciao, on t'écoute, Arnaud.
La beauté de l'âme est infinie, comme le ciel et ses nuages. Quel heureux présage, quel heureux présage. Elle danse et vole toutes les nuits et s'en va profiter d'un voyage. Quel heureux présage, quel heureux présage. Palundatunde, tudede, 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 tudede. Tadundatunde, tudede, 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 tudede. Quand elle sent l'amour, elle grandit comme une vague près du rivage. Quel heureux présage. Elle veut tout apprendre dans l'ici et repartir avec ses bagages pour être un peu plus sage. Pour être un peu plus sage.
Bravo, merci beaucoup, à mercredi, ciao.